RFI, il est midi à Paris, 10h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, la Syrie, nous irons à Alep où les quartiers kurdes font l'objet d'un accord depuis un mois pour être replacés sous l'autorité de Damas. Une transformation issue d'un plan qui prévoit l'intégration du Nord-Est au sein du nouvel État syrien. Reportage dans un instant. Emmanuel Macron, toujours en tournée en Asie du Sud-Est. Depuis Singapour, il multiplie les déclarations sur Gaza, mais aussi l'Ukraine. La décision ou non de sanctionner la Russie si elle refuse un cessez-le-feu en Ukraine est un test de crédibilité pour les États-Unis. Fin de citation. Marine Le Pen, elle, est en Nouvelle-Calédonie depuis 3 jours. La chef du parti d'extrême droite français, le Rassemblement National, qui n'exclut pas, je cite, un quatrième référendum dans 40 ans, a échangé sous tension aujourd'hui avec les plus radicaux des partisans de la Calédonie française. Et puis demain, le PSG et l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Les supporters parisiens mettent leur plus beau t-shirt. Reportage à Paris en fin de journal. Et on prend tout de suite la direction de la Syrie. C'est une transition qui patine. Un mois après l'accord qui prévoit de replacer les quartiers kurdes à Achrafieh et de Sheikh Maksoud à Alep sous l'autorité de Damas où vivent 500 000 habitants. La transformation de ces deux quartiers à majorité kurde fait office de laboratoire au plan qui prévoit l'intégration du Nord-Est au sein du nouvel État syrien. Mais sur place, les autorités de Damas n'inspirent pas confiance et les autorités locales sont de moins en moins accommodantes. Reportage de notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin.
Les uniformes de la sécurité générale des nouvelles autorités de Damas font désormais corps avec les camouflages des agents kurdes. Sur les 7 checkpoints qui entourent les deux quartiers kurdes d'Alep, les contrôles se font désormais de manière conjointe. Mohamed Ralil coordonne les forces de sécurité kurdes.
Jusqu'à présent, tout se passe bien. Nous faisons notre devoir tous ensemble. Grâce à cela, nos quartiers sont beaucoup plus sûrs qu'avant. On se sent en sécurité, l'atmosphère y est meilleure.
Longtemps sous contrôle des factions armées kurdes, le nouveau gouvernement de Damas a repris en avril l'autorité sur ces deux quartiers. Les institutions autonomes sont conservées ainsi que certaines particularités, mais des points de négociation sont aujourd'hui bloqués, comme l'échange de prisonniers, explique Nouri Cheko, co-président du conseil local.
Le nouveau gouvernement est censé nous rendre l'ensemble de nos détenus. Or, la plupart se trouvent aujourd'hui dans les prisons turques. Le pouvoir ne peut rien faire. Il est trop faible et ne peut pas désobéir aux ordres d'Ankara.
Parmi les habitants, de nombreux déplacés d'Afrine tombés aux mains des forces pro-turques en 2018. Le retour des déplacés négociés par les forces démocratiques syriennes reste toutefois compliqué. Mariam n'a jamais pu rentrer chez elle.
Près de chez moi, il y a encore la présence de mercenaires pro-turcs. Ils imposent des taxes à tous les déplacés qui souhaitent récupérer leur maison.
Depuis avril, les tirs de snipers kurdes, autrefois postés aux alentours pour défendre les deux quartiers, ont cessé. Ces derniers ont tué près de 65 civils entre novembre et janvier. À Alep, Manon Chaplin, RFI.
Toujours au Proche-Orient, Gaza est au centre de l'attention. Il est temps d'entrer avec toute la force nécessaire à Gaza pour détruire et tuer entièrement le Hamas. Déclaration du ministre israélien d'extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui affirme que le Hamas a rejeté, je cite, « une nouvelle fois la proposition d'accord acceptée par Israël ». Factuellement, le Hamas n'a pas encore refusé la proposition américaine, mais le mouvement islamiste palestinien a indiqué hier soir qu'elle ne répondait pas aux demandes du Hamas, selon un responsable du mouvement, interrogé par nos confrères de l'agence France-Presse. La proposition signifie en essence la perpétuation de l'occupation, la poursuite des meurtres et de la famine. Fin de citation. Et la situation à Gaza fait aussi à nouveau parler Emmanuel Macron, toujours en tournée en Asie du Sud-Est. La reconnaissance d'un État palestinien est un devoir moral et une exigence politique, a déclaré le président de la République française, qui a également énuméré plusieurs conditions. Emmanuel Macron a aussi précisé que les Européens devaient, je cite, « durcir la position collective contre Israël s'il n'y a pas de réponse à la hauteur de la situation humanitaire apportée dans les prochaines heures et les prochains jours dans la bande de Gaza ». Une conférence à l'ONU sur le sujet est par ailleurs prévu le 18 juin prochain. La France et l'Arabie Saoudite co-présideront cet échange. Autre déclaration du président français depuis Singapour sur fond de guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que la décision ou non de sanctionner la Russie si elle refusait un cessez-le-feu en Ukraine était un test de crédibilité pour les États-Unis de Donald Trump. On l'écoute.
Je ne crois pas que l'après-Kiev soit un problème de crédibilité pour les Européens. Je pense que c'est un test de crédibilité pour les Américains. Nous sommes prêts, Européens, à participer à des éléments de sanctions dissuasives si les russe ne venait pas à la table des négociations et ne venait pas, en quelque sorte, avec une proposition de cessez-le-feu crédible. Les semaines qui ont suivi ont montré que la Russie n'était pas prête. Je note que le président Trump, ces derniers jours, a condamné avec force les frappes russes en Ukraine. Je me suis entretenu il y a 48 heures avec le président Trump, qui a marqué son impatience. La question maintenant, c'est qu'en faisons-nous ? Nous sommes prêts. Et donc nous attendons deux réponses. La confirmation par la Russie, ou qu'elle n'est pas prête à faire la paix, ou alors la clarté d'une réponse et d'un chemin dans cette direction. Et en fonction de la réponse russe, l'engagement américain qui nous a été confirmé à Kiev.
Voilà pour cette déclaration d'Emmanuel Macron à Singapour sur l'avenir de l'Ukraine, des propos recueillis sur place par Nicolas Rocca. Et cette prise de parole intervient aussi à l'heure où Kiev est engagé vers de nouveaux pourparlers proposés par la Russie sous conditions. Ça se passera à Istanbul lundi prochain. Le 19 mai dernier, les deux pays avaient déjà suivi un cycle de négociations sous pression américaine, mais ils n'ont pas abouti. Pour ce nouveau cycle, l'Ukraine a demandé à Moscou de lui transmettre un document détaillant ses conditions pour une paix durable. RFI, il est 21h06 à Nouméa. En Nouvelle-Calédonie, c'est une visite mouvementée qui a eu lieu ce matin pour Marine Le Pen. La chef de file du parti d'extrême droite, le Rassemblement National, a proposé une pause institutionnelle pour sortir l'archipel du Pacifique Sud de l'Ornière avant un nouveau référendum dans 40 ans. Cette position ne satisfait pas du tout les plus radicaux des partisans de la Calédonie française. Le reportage de Charlotte Manvi.
Les drapeaux tricolores sont de sortie devant la salle qui doit accueillir Marine Le Pen sur la commune du Mont d'Or. Les gros bras aussi. Paul Quinquagénaire Canac a voulu déployer le drapeau indépendantiste. Il se fait aussitôt refouler.
Pourquoi vous m'interdisez de venir ici ?
Dégage !
Une scène qui choque, y compris parmi les partisans de la Calédonie française.
Si on veut vivre tous ensemble ici, il va bien falloir à un moment qu'on s'unisse, non ? Je suis pas venu pour ça.
Dans la salle, l'ambiance est électrique. La venue de Marine Le Pen était attendue, mais l'élu RN qui réalise d'excellents scores dans l'archipel est accusé de vouloir larguer la Nouvelle-Calédonie.
Ce qu'ils veulent, c'est nous foutre dehors. Parce qu'on est des blancs, mais c'est la vérité, vous ne l'avez pas vécu. Et là, vous êtes en train de nous donner des leçons, comme si vous connaissiez la Nouvelle-Calédonie. Non, mais on voit bien que vous ne connaissez pas.
Le problème, le référendum que Marine Le Pen entend proposer dans 40 ans, afin de prendre en considération la revendication indépendantiste, un discours qu'elle a bien du mal à faire entendre.
C'est-à-dire qu'il y a les Kanaks qui ont une peur existentielle de voir disparaître leurs coutumes, leur culture. Mais ne soyez pas comme ça. Je veux dire, quand vous êtes comme ça, j'ai l'impression que rien sera possible. C'est malheureux quand même.
Marine Le Pen repart samedi du territoire. Elle entend à son retour à Paris demander à Emmanuel Macron une place à la table des discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Charlotte Manvi, au Mont d'Or en Nouvelle-Calédonie, RFI.
Et pour terminer, du foot et une attente interminable pour les supporters du Paris Saint-Germain. Les Parisiens affrontent demain l'Inter Milan à Munich pour la finale de la Ligue des champions de football. Une occasion rare de décrocher pour la première fois le titre de champion d'Europe. À la boutique du club, sur les Champs-Élysées, beaucoup se pressent pour acheter les maillots de leurs joueurs fétiches. Reportage d'Elisa Savate.
Ça fourmille devant la boutique du Paris Saint-Germain.
Ils se sont fait dévaliser.
Abdoulaye sort les mains vides.
J'avais prévu de prendre le maillot Ferd que j'ai toujours pas, parce que j'ai tous les autres. Et je m'étais dit que pour le rose, pour samedi soir, ça pouvait être pas mal. Mais ils ont pas ma taille, donc je vais le prendre sur internet.
Mais il reste chanceux, abonné, il regardera le match directement au Parc des Princes.
Tous ensemble, on chantera. On va gagner. Face à Inter, ça va être compliqué, mais je suis confiant, on va le faire.
Terence, lui, sort du magasin, les mains remplies de sacs.
J'ai acheté 3 maillots pour moi, mon cousin et un ami.
Pressé, il part à Dubaï où il regardera le match entre amis. La victoire, il y croit.
Alors, si je n'avais pas espoir, j'aurais pas dépensé 356 €, je crois, un truc comme ça. Donc je pense qu'au niveau des pronostics, ça va être juste, mais qu'on va gagner. Je ne sais pas combien au niveau du score, mais je pense qu'on va gagner.
Omar, 10 ans, sort avec un grand sourire. Il est fan du PSG et de...
Hakimi, parce que je suis marocain et je joue défense. Ça a costé ça, ça fait du sens.
Accompagné de sa sœur Rayana, ils font déjà des pronostics.
Ça serait bien s'ils font un 0-0, ils vont au pénalty. Le suspense jusqu'au bout. Mais je dis 4-2 pour Paris. 4-2, c'est beau, je trouve.
Mais qu'importe le score, ce samedi, c'est sûr, les supporters seront là.
Le reportage à Paris d'Elisa Savate. PSG Inter Milan, c'est demain à 21h. Heure de Paris, les deux équipes espèrent décrocher la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.